liquidation de stock jusqu'au 18 juin au magasin Loaze à Pontenay. Des meubles de jardin à la déco, tout doit disparaître. Profitez-en.
12h15. Le journal de Thomas Nagy.
Bonjour, les Suisses ont rendez-vous avec les urnes ce week-end. Ils doivent notamment se prononcer sur deux objets fédéraux, l'initiative Monnaie Pleine et la loi sur les jeux d'argent. Le point dans ce journal avec notre correspondant à Berne. Il a 30 ans et se porte bien, le Clos des Cantons, un vin jurassien, est né en 1988. Aujourd'hui, c'est Olivier Fleury qui s'occupe de la vigne, plantée par son père. Il nous fera visiter le domaine dans notre magazine. Raphaël Nadal va-t-il asseoir encore un peu plus son règne sur l'ocre parisien? Il affronte dès 15h Dominique Thiem, l'Autrichien, en finale de Roland-Garros. L'occasion pour l'Espagnol de remporter sa 11e Coupe des Mousquetaires. Un temps chaud mais variable, c'est le programme de cet après-midi. Selon Météo News, le mercure devrait atteindre les 28 degrés en plaine et 23 sur les hauteurs. Quelques orages localisés pourraient éclater, des averses sont également possibles. Le temps et les températures devraient ensuite se gâter dès demain et jusqu'à mercredi. La révolution monétaire et bancaire ne devrait pas avoir lieu ce 10 juin. L'initiative Monnaie Pleine soumise au peuple suisse devrait être rejetée, le deuxième objet de ce dimanche électoral. La loi sur les jeux d'argent devrait, lui, passer la rampe. Avec cette conséquence, les jeux d'argent sur Internet seront cadrés et réservés aux casinos et aux sociétés au bénéfice d'une concession en Suisse. Le point sur les enjeux soulevés par ces deux objets avec notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
Des affaires d'argent sont soumises aux citoyens suisses ce 10 juin. Deux objets techniques qui n'ont pas soulevé les mêmes passions que l'initiative Nobilag rejetée le 4 mars dernier. Monnaie Pleine, lancée et soutenue par des représentants de la société civile, entend imposer de nouvelles règles aux banques pour éviter les crises systémiques comme celle de 2008. L'émission de monnaie serait réservée à la seule banque nationale et les banques commerciales ne pourraient plus prêter que de l'argent qu'elles ont en réserve. Aujourd'hui, la monnaie réelle ne représente que 10% des transactions. Parce que le système bancaire suisse fonctionne parce que de nouvelles règles ont été émises dans le concept « too big to fail » avec un renforcement des fonds propres, une large majorité politique s'oppose à ce qui est présenté comme une expérience très risquée. À 3 semaines de la votation, les sondages ne donnaient que 34% de oui à l'initiative.
Et les sondages donnent par ailleurs clairement gagnante la nouvelle loi sur les jeux d'argent.
58% de oui, 37% de non. C'est un oui surtout à la redistribution des bénéfices des sociétés de loterie et des casinos, à la VS, au sport et à la culture. Un oui aussi à la surveillance étatique des sociétés de loterie et des casinos qui doivent disposer d'une concession, même sur Internet. Les opposants qui ont fait aboutir le référendum veulent jouer au jeu de casino sans entrave sur Internet, peu importe le casino, sa localisation et ses règles déontologiques. Les référendaires dénoncent une censure d'Internet et créent que les jeux d'argent constituent un précédent, que d'autres accès à la toile soient proscrits. Ils opposent au régime des concessions la responsabilité et la liberté individuelle. Dernier enjeu de ce dimanche électoral fédéral, mais il pourrait en aller autrement en Valais, au Grison et au Tessin, où on vote pour ou contre une candidature aux Jeux Olympiques, pour ou contre un parc naturel régional et où on élit ses autorités. La participation devrait être modeste, inférieure à 50%.
Et dans le canton du Jura, le peuple se prononce sur l'initiative cantonale sur les prestations complémentaires pour les familles, ainsi que sur le contre-projet accepté par le Parlement. Enfin, autre scrutin très attendu, le canton du Valais se prononce sur la candidature olympique Sion 2026.
Le magazine.
Il souffle ses 30 bougies. Le Clos des Cantons, un vin cultivé dans le canton du Jura, a été planté en 1988. C'est Didier Fleury de Halle qui l'avait fait à l'époque. 30 ans plus tard, c'est son fils, Olivier, qui s'occupe désormais de la production. Tombé très jeune dans le domaine, la Joulot de 29 ans nous a emmené au milieu de ses vignes. Un outil de travail qui a presque le même âge que lui. Reportage.
Alors, je m'appelle Olivier Fleury, je viens de Halle, je suis viticulteur.
C'est votre père qui a lancé ce domaine il y a 30 ans, c'est lui qui vous a transmis le virus?
Alors oui, depuis tout jeune, il a toujours un peu fait l'effort, on va dire ça comme ça, de nous prendre avec, que ce soit moi et mes frères et sœurs. Donc depuis tout petit, on est baigné dedans.
Et là, vous êtes en train de reprendre progressivement, enfin, c'est vous qui êtes en charge de la production actuellement du domaine. Ça fait combien de temps que vous êtes responsable ici?
Alors ça veut faire 4 ans que je suis vraiment maintenant aux manettes. Je suis épaulé quand même par ma femme au niveau de tout ce qui est bureaucratie, ma femme et ma maman. Et bien sûr, pas oublier quand même le chef de domaine. Didier s'occupe plutôt de ce qui est marché.
C'est le fils qui reprend, mais le papa, j'imagine qu'il est toujours quand même, il est là, je pense, pour fournir notamment des conseils de temps en temps.
Oui, alors c'est très important d'avoir surtout l'expérience. On est jeune, on a beaucoup d'idées, mais quand il y a des soucis, savoir que quelqu'un les a peut-être vus il y a quelques années en arrière et y a remédié, alors ça, c'est un sacré appui.
Vous avez des exemples de conseils qu'il vous a donné, qui vous ont beaucoup aidé?
Ne pas prendre de retard. Si tout d'un coup, on prend du retard, par exemple, à l'ébourgeonnage ou bien au palissage, qu'on fait maintenant, alors là, après, on court derrière la vigne toute l'année.
Donc là, qu'est-ce qu'on voit?
Ici, on voit une grappe, une future grappe de raisin qui est en train de fleurir. On voit ici, il y a des petites étamines. Et puis, on est en pleine floraison. Je pense qu'on a encore, d'ici la fin de la semaine, début de semaine prochaine, la floraison sera terminée.
On voit des petites boules vertes, c'est des grains de raisin déjà, ça?
Une partie où on voit les petites étamines qui sont un peu étalées comme ça, on voit que le grain de raisin a été fécondé. Par contre, à côté, c'est tout l'ensemble de la fleur qui n'est pas encore sortie, qui n'a pas encore éclos.
Toutes ces petites boules ne vont pas forcément donner du raisin, c'est ça?
Alors voilà, alors ça dépend du temps qu'il fait. Les jours passés, on a une belle période sèche. Et puis on voit aussi que les insectes sont très actifs dans la pollinisation.
Donc c'est bon signe?
Alors c'est bon signe, oui. Ce qui serait vraiment des fois dommageable, c'est une semaine de pluie non-stop. Que là, on a quand même la journée, il fait beau, les insectes sont sortis, que ce soit les abeilles sauvages ou bien même beaucoup les mouches. Et puis on a eu aussi un petit peu de vent. Du coup, tous ces éléments font qu'on a de fortes chances que les grains de raisin soient bien fécondés.
Mais c'est encore un peu tôt pour se prononcer, c'est ça?
Oui, alors je pense qu'il faudrait attendre 10 bons jours pour voir au final ce qui veut rester.
Il y a la France qui n'est pas très loin, le Lavaux, le Châtel qui sont aussi tout proches. Comment est-ce qu'on fait pour se différencier quand on est comme ça entouré de domaines viticoles?
On a peut-être des fois même certains cépages, donc les mêmes, mais le terroir n'est pas du tout la même chose. Après, c'est la curiosité du consommateur. Nous, on met à cœur de réaliser des produits qui sont abordables, qui sont au même niveau gustatif qu'au niveau suisse ou français. Et après, ma foi, c'est un peu le consommateur qui choisit. Comme les gens réfléchissent de plus en plus local, d'après ce qu'on ressent, la curiosité risque d'être quand même plus importante peut-être dans les prochaines années. Mais on est déjà content de faire une certaine quantité de vin qu'on arrive à écouler.
Le sommet entre les États-Unis et la Corée du Nord se précise. Kim Jong-un est arrivé à Singapour ce matin. Il y rencontrera le président américain Donald Trump mardi pour un sommet historique. Le président américain devrait quant à lui arriver à Singapour vers 14h30, heure suisse. 3 milliards de francs pour l'éducation des filles. Le G7 s'est engagé hier à engager cette somme pour l'accès à l'éducation des femmes et filles en situation vulnérable, dont des réfugiés. L'hôte du sommet, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, a affirmé qu'il s'agissait du plus important investissement dans l'éducation des femmes et filles dans des situations de crise et de conflit. Cette initiative a été saluée par la jeune pakistanaise Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix. Et toujours à propos du G7, le président américain Donald Trump a fait volte-face ce week-end contre ses alliés d'Europe et du Canada. Il les a menacés de droits de douane alourdis après un sommet qui s'est fini en fiasco. Donald Trump a retiré peu après la conclusion de la réunion son soutien à la totalité du communiqué de 28 points qui avait été approuvé par les 7 pays. La raison des reproches renouvelés par Justin Trudeau à l'égard des droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium. Sport. L'actualité sportive, c'est avec Jérémy Pignard. L'attente promet d'être longue pour le FC Bienne.
Oui, le club miennois ne sait toujours pas ce matin s'il est promu ou non en première ligue de football. Les Célandais ont remporté hier soir leur dernier match de deuxième ligue interrégionale 4-0 à Konolfingen. Ils étaient avant cela deuxième du classement avec le même nombre de points que le leader Listal, mais le match de Listal à Dornach a été renvoyé à une date ultérieure en raison des orages. Il pourrait se jouer mardi ou mercredi. En cas de victoire de Listal, le championnat se jouerait au classement du fair play. Malheureusement, le FC Bienne a encore pris un carton jaune hier soir alors qu'il comptait déjà 3 points de pénalité de plus que son rival. Un carton que le président biennois Dietmar Fess a du mal à digérer.
C'était vraiment quelque chose que j'ai pas compris comment on peut choper un carton. On le savait exactement, il faut être prudent. C'était dans la 85e minute. On reçoit un carton jaune qui n'était pas du tout nécessaire. Pour moi, c'est quelque chose d'incompréhensible. Mais bon, finalement, c'est comme ça. Et puis, j'espère que Dorna, c'est quand même une équipe redoutable. Alors, j'espère quand même que Dorna va jouer le jeu. Et puis là, je suis sûr et certain, si Dornach sera présent avec sa meilleure équipe, qu'ils vont faire au moins un match nul.
Eh bien, serait promu si Listal ne gagne pas ou si Listal concède 4 cartons jaunes ou un carton rouge. Toujours en deuxième ligue interrégionale de football, le FC Moutiers a bouclé le championnat par une victoire devant son public 2-0 sur le FC Berne hier soir. Les Prévotois terminent au 8e rang du classement, une place devant leurs voisins du FC Tavannes Tramelan. Les footballeurs du Jura bernois ont perdu leur dernier match de la saison 4-1 au stade d'Orange face à la Estimo Ball. Le dénouement de la deuxième ligue, cette fois, se jouait ce matin. Le FC Cornol-Labaroche a assuré sa montée en deuxième ligue interrégionale grâce à sa victoire 3-0 devant Courgenay. Il fallait l'emporter pour être certain de terminer devant Azzurri Bienne. Develier et Bézabienne ont eux assuré leur maintien en faisant match nul un but partout. C'est finalement Grünstern qui sera relégué. Les Bernois n'ont pu faire mieux que match nul un partout contre Nido. C'était la fête hier soir au FC Kourou. Le club vadais de football a décroché sa promotion en deuxième ligue au détriment du FC Hall. Après sa victoire 2-1 au match aller, Kourou a tenu en échec Hall 2 buts partout hier soir lors du match retour des finales de 3e ligue à Bellevue. Menés au score en début de partie, les protégés de Claude Chiocchi ont su se montrer solides et réalistes pour inverser la tendance. Un gros match pour l'attaquant vadais Steve Chetla.
Ils ont surtout dominé au match aller. Ils ont été très forts dans ce jeu-là. Nous, on était plus sur la défensive au premier match. On jouait à l'extérieur. Mais ici, je pense qu'on a fait match égal. On a dit direct, on va les chercher. On ne les laisse pas venir. Et puis, c'est ce qu'on a fait. Et ça a payé.
Le tournant du match, c'est quand même le 2-1 que vous réussissez à marquer. Est-ce que ça ne leur met pas un coup sur la tête?
Je pense
que
ça leur met un coup sur la tête. Ouais. C'était dur pour eux. Après, il vient parce qu'on a travaillé en équipe. C'est pas un but venu d'ailleurs. Les actions, elles sont là. Et puis, ils tombent au moment, c'est vrai. Je pense que ça leur a fait du mal.
Vous avez commencé le match. Vous avez pris un but au bout de 10 minutes. On a vu que vous êtes resté soudé. Est-ce que c'est ça, en fait, le secret du FC Kourou pour être parvenu à monter en deuxième ligue?
C'est exactement ça. Toute la saison, on a été très forts, très soudés, on est très unis tous. Et je pense que c'est la vraie force du FC Kourou version 2017-2018.
Et vous entendez l'ambiance de fête derrière Steve Chetla qui tranche évidemment avec la déception des Ajoulots du FC Hall. Les Crins avaient survolé leur championnat tout au long de l'année, mais ils n'ont pas su gérer cette finale de 3e ligue, confie le gardien du FC Hall, Jocelyn Burgeret.
On a eu la chance ou la malchance, je sais pas, de savoir qu'on jouait cette finale un mois avant le dénouement. Donc ça peut être un avantage dans le sens où on a pu la préparer, on savait, on a pu gérer les blessures, gérer les cartons. Mais après, on n'était plus dans le rythme. Et ça, je pense que ça s'est ressenti dès la première mi-temps du premier match à Hall. Et voilà, on le pécache. On a deux matchs, on a trois heures. Trois heures, ça paraît long, mais c'est à la fois très très court. C'est ingrat. Dans le foot, on est vite tout en haut, vite tout en bas. Là, actuellement, mon état d'esprit, il est vraiment très très bas.
Vous avez vraiment le sentiment d'avoir tout donné ou bien est-ce que vous avez quand même des regrets, notamment sur le premier match?
C'est clair qu'on a des regrets. On prend deux buts à la maison. On en met deux à l'extérieur, certes, mais c'est les deux buts à la maison qui nous flinguent. Il n'y a pas d'autre solution. C'est difficile.
Un dossier de Yanis Gonia, une galerie photo de ce match est à retrouver sur notre site internet. Il y avait de la joie également chez les Biennois hier soir. Le FC Aurore Bienne a aussi arraché sa promotion en deuxième ligue sur le terrain de Lys. Après une défaite 2-0 à domicile au match aller, les Célandais ont réalisé l'exploit en décrochant leur accession au tir au but. 2-0 à l'issue du temps réglementaire et victoire 5-4 au tir au but. Le sport biennois décidément à la fête hier soir en Ligue nationale A d'Inline Hockey. Bienne Célanders a renversé le leader Givisier 4-1. Bien Skater 90 a de son côté remporté le derby régional face à Rosmaison 10-7. Les Célandais reviennent à un point de la troisième place occupée par le SHC Rosmaison. Enfin, le SHC Buy, toujours lanterne rouge, a subi la loi de Saya Luka Lugano 9-5 au Tessin. Le TC Courant de l'Ain maintenu in extremis en Ligue B. On jouait hier après-midi la dernière journée des interclubs de tennis. Malgré sa défaite 7-2 à domicile face au leader Nyon, le club vadais conserve sa place en Ligue B. Il termine avec deux petits points d'avance seulement sur la lanterne rouge Froberg, vainqueur surprise face au deuxième Winterthur. Un soulagement pour les jeunes joueurs du TC Courant de l'Ain qui boucle la première saison d'un club jurassien à ce niveau. Une aventure extraordinaire pour Jonathan Wagner qui a participé au double hier.
Ce qu'on en a tous retiré, c'est déjà des beaux matchs, une belle nouvelle expérience. Ensuite, de côtoyer des joueurs qui sont maintenant dans le top 200 mondial ou même dans le top 500, c'est vraiment du beau tennis. Donc, on est assez fiers de pouvoir voir des matchs de ce niveau-là. C'est vrai qu'on apprend un peu plus sur la vie de tennisman, sur les difficultés de ce métier. Et c'est vrai que de rencontrer de tels joueurs, ça fait aussi du bien pour la confiance, pour l'esprit d'équipe. Et ça a vraiment fait du bien d'avoir des joueurs de cette trempe.
Et une saison riche en enseignements également. Bertrand Siegenthaler a formé la plupart de ses jeunes joueurs du TC Courant de l'Ain. Après une saison un peu ennuyante l'an dernier avec un niveau pas assez relevé, celle-ci a été importante pour le développement de la carrière des joueurs. Bertrand Siegenthaler.
Naturellement, ça aide à continuer de progresser par rapport au niveau de l'année passée. Et puis on a vu qu'ils n'étaient pas ridicules et loin de là pour jouer en Ligue nationale B. Comme ils arrivent plus ou moins en fin de leur année junior, c'est-à-dire ils débutent leur carrière chez les actifs, on peut dire que ça leur montre ce qu'il reste à faire pour continuer de progresser et puis d'évoluer en Ligue nationale B.
Et les deux points hier ont été apportés par Damien Wenger et Raoul Teichmann. Résultat détaillé sur notre site internet. Il a encore une fois rendez-vous avec l'histoire. Raphaël Nadal pourrait décrocher ce dimanche un 11e sacre à Roland-Garros. L'Espagnol grandissime favori affronte l'Autrichien Dominic Thiem en finale. Duel entre deux spécialistes de l'ocre. Les deux hommes étaient presque appelés à se retrouver un jour en finale des Internationaux de France de tennis. Un scénario que Raphaël Nadal n'osait pourtant même pas imaginer il y a quelque temps.
Il y a 4 ans, je ne savais même pas si je reviendrais en finale. Je ne pouvais donc pas penser cela. Je savais qu'il avait un énorme potentiel, que c'était un grand joueur, mais je ne pouvais pas prédire l'avenir. Je ne pouvais même pas prédire mon propre futur. Dominic Thiem est un des joueurs qui a la possibilité de gagner tous les tournois dans lesquels il joue, peut-être même plus encore ici à Roland-Garros. Il est physiquement fort, il est puissant. Depuis 3 à 4 ans, c'est un candidat aux victoires sur terre battue.
Raphaël Nadal qui a déjà disputé 23 finales de Grand Chelem, ce sera la première en revanche pour Dominic Thiem, mais l'Autrichien de 24 ans sait comment contrer le numéro 1 mondial. Il l'a déjà battu 2 fois sur terre battue, à Rome en 2017, puis à Madrid en 2018. Dominic Thiem croit donc en ses chances.
C'est le favori face à n'importe qui, mais je sais comment jouer contre lui, j'ai mon plan. J'essaierai de faire en sorte que ce plan marche ici et pas seulement à Madrid et à Rome. Je peux tirer beaucoup de ces deux victoires, il faut que je m'en inspire, même si je crois qu'ici cela sera plus difficile. Il préfère les conditions de Paris, en plus on joue en 5-7, c'est encore différent. Ce qui est positif, c'est de l'avoir déjà joué 2 fois cette année.
Et coup d'envoi de la finale à 15h. En cas de victoire, Nadal pourrait se rapprocher de Roger Federer. 20 victoires en Grand Chelem pour le Suisse. Ce pourrait être la 17e pour Nadal. C'est la Ferrari de Sébastien Vettel qui s'élancera en pole position du Grand Prix de Formule 1 du Canada ce soir. En qualification, hier, le pilote allemand a devancé le Finlandais Valtteri Bottas sur Mercedes. Le leader du classement général, Lewis Hamilton, partira en deuxième ligne. Départ à 20h10, heure suisse.
Merci Thomas Nagy et Jérémy Pignard. L'actu en tout temps sur RJB et RFJ.ch. Un temps beau, ensoleillé pour ce dimanche et bien chaud avec des températures qui vont grimper à 29 degrés au meilleur de la journée dans la vallée de Dolémont et la région de Moutier. 23 par exemple aux Franches-Montagnes ainsi qu'à la Chaux-de-Fonds, au Noirmont, à Seigne-Légier ou encore au Locle. 24 à Court, Tramelant, Saint-Imier, Tavannes par exemple. Et puis il y aura également 27 degrés au meilleur de la journée en Ajoie et 28 à Bienne et la Neuveville. Des cellules orageuses sont attendues dans l'après-midi. Il y aura donc quelques averses possible en pleine. Demain lundi, en partie ensoleillé. Quelques averses possibles dès le matin, puis averses et orages parfois forts lundi dans la journée. Et un climat assez lourd pour débuter la semaine selon Météo News. Pour mardi, un ciel changeant et encore des averses.